Il est 6h.
Je crois que toute la France est mobilisée. Il faut vacciner, mais il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières.
Mais c'est le seul moyen pour envisager un début de sortie de crise, martèle Jean Castex. Et justement, la vaccination va connaître un gros coup d'accélérateur avec la mise à disposition du Stade de France, où l'on prévoit 10 millions d'injections par semaine. Accélération aussi aux États-Unis. D'ici le 19 avril, tous les adultes pourront recevoir une dose. Dans ce journal, des débats houleux en prévision à partir de demain à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi ETA. Et puis une pièce de théâtre en ligne depuis votre salon pour compenser la fermeture des salles. Mais pour les comédiens, le trac est toujours là.
Les sports à suivre. Le PSG attendu au tournant ce soir contre le Bayern de Munich. Quart de finale de la Ligue des Champions. Et puis mon invité inattendu qui a tracé sa route des quartiers populaires de Rouen jusque dans les studios de cinéma. Il joue dans le prochain James Bond et dans le prochain OSS 117. Il va nous dire comment il en est arrivé là. Il nous raconte son parcours dans un quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne de vaccination s'accélère en France avec l'ouverture du vaccinodrome du Stade de France. Hier, plus grand centre de vaccination dans l'Hexagone. Objectif, 10 millions d'injections par semaine, a dit Jean Castex. Et le Premier ministre s'est montré confiant.
Je crois qu'on peut dire de façon à peu près sûre que la première cible que nous nous étions collectivement fixée, c'est-à-dire 10 millions de nos concitoyens vaccinés au 15 avril, qui était donc une première marche très symbolique, sera, grâce à cette mobilisation, sera atteinte et sans doute, je l'espère en tout cas de tout cœur, dès la fin de la présente semaine pour que cette accélération puisse encore s'amplifier dans les jours et dans les semaines à venir. Voilà, je crois que toute la France est mobilisée. Il faut vacciner, mais à côté, il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières. C'est cette alliance entre ces mesures de précaution et la vaccination qui fera encore une fois que nous aurons des perspectives certaines de sortie de crise.
Voilà, Jean Castex au Stade de France hier, des propos recueillis par Hélène Terzian.
Hier, c'était aussi le retour de l'école à la maison. On en parlait à l'instant avec Martin Lange et avec quelques ratés entre serveurs défaillants et cyberattaques. De nombreux élèves n'ont pas réussi à accéder à leur plateforme de cours en ligne.
Le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, va porter plainte suite à ces actes délibérés de malveillance. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale assure que les cellules de crise travaillent activement pour que tout soit rétabli ce matin. Mais il y a un autre problème auquel peuvent être confrontés les parents d'élèves avec ce retour de l'école à la maison. C'est celui de la garde d'enfants. Certaines professions dites prioritaires ont le droit de laisser leurs enfants dans les établissements scolaires, mais ce n'est pas le cas du personnel de justice.
Et l'année dernière, pendant le confinement, environ 3000 personnes étaient déclarées indisponibles chaque jour du fait de la garde d'enfants. Une situation intenable selon Isabelle Beignet-Houben, secrétaire générale des greffiers de France, Force ouvrière. Elle répondait à Marion Dubreuil.
On aurait voulu une vraie réduction d'activité parce que là, on ne va pas avoir de réduction d'activité. On va faire des adaptations en fonction du virus, des absences des uns et des autres. On maintient tout, c'est-à-dire qu'on maintient les audiences, on maintient les convocations, on n'a rien déprogrammé. Donc, on va faire autant de choses qu'avant avec moins de personnes. Concrètement, moi, j'ai 3 filles, elles sont au collège. Je ne me vois pas relire mes jugements, faire mes notifications. On est en train de surveiller des devoirs de 3e, de 4e. C'est juste de la folie. On sait très bien que ce n'est pas possible. Ou alors si, il faut le faire entre 6h le matin et 9h et après, entre 8h, quand elles vont être couchées, entre 8h et je ne sais pas quelle heure. On n'est pas instituteur, on n'est pas professeur. Enfin, on répondra à des questions de mathématiques tout en relisant son jugement, ce n'est pas possible.
Autre ambiance de l'autre côté de l'Atlantique. Joe Biden annonce une nouvelle étape dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Tous les adultes américains pourront recevoir une dose à partir du 19 avril, soit une dizaine de jours avant l'objectif fixé. Écoutez Joe Biden.
By no later than April 19th, in every part of this country,
le 19 avril au plus tard, dans toutes les régions de ce pays, chaque adulte pourra se faire vacciner. Plus de règles confuses, plus de restrictions confuses. Mais laissez-moi être tout à fait honnête avec vous, nous ne sommes pas sur la ligne d'arrivée. Ce combat est loin d'être terminé. Ce n'est pas le moment de baisser les bras.
À noter que la Californie prévoit un début de retour à la normale avant l'été avec une réouverture totale de l'État à la mi-juin, à condition qu'il n'y ait pas de nouveau pic de la pandémie ni de pénurie de vaccins.
Il est 6h05 sur Europe 1. C'est un débat sous haute tension qui s'annonce demain dans l'hémicycle. Les députés se penchent sur la proposition de loi sur l'euthanasie.
Mais le sujet divise tous les groupes parlementaires et suscite même l'embarras du gouvernement. Et pour éviter un vote dans la journée, pas moins de 3000 amendements amendements ont été déposés. Virginie Salmen.
Un débat sur l'euthanasie en pleine pandémie, Olivier Falorni n'y voit pas un mauvais timing. Pour les députés Libertés et Territoires qui portent ce texte, les Français sont prêts.
C'est une grande loi de liberté, celle de l'ultime liberté qui est encore refusée aux Français. Cette loi permet une assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes.
Dans une démocratie, on ne donne pas la mort, répondent les opposants à ce texte. Jean Leonetti en tête, l'auteur des deux dernières lois sur la fin de vie. Parmi les points de blocage, les délais très courts pour demander à mourir. Mourir, souligne le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs.
Cette proposition de loi, elle vient nous dire que pour un patient qui fait une demande d'euthanasie, on a 4 jours pour organiser, rencontrer des médecins, faire des propositions, revenir vers le patient, lui faire confirmer sa demande, et ensuite qu'on a 24 heures pour mettre en œuvre cette euthanasie. Et je trouve que ces délais très contraints qui sont complètement différents dans tous les autres pays qui ont déjà légalisé, hein, où les délais sont beaucoup, beaucoup plus longs, jusqu'à 90 jours au Canada, hein, donc c'est vraiment rien à voir. Elle ignore complètement ce qu'est la réalité de l'accompagnement.
Autre point de crispation à prévoir dans l'hémicycle, l'article 3 qui prévoit qu'un patient qui ne peut plus s'exprimer pourrait être euthanasié s'il l'a clairement demandé par écrit ou à un proche de confiance.
Et le député qui porte ce texte, Olivier Falorni, est justement mon invité en direct à 6h40 sur Europe 1.
Une nouvelle vidéo choc diffusée hier soir par L214 dans un élevage industriel de poulets du Pas-de-Calais cette fois, où l'on peut apercevoir des volailles entassées en mauvais état, mortes parfois. L'association de défense des animaux souhaite faire barrage à un projet d'extension de cet élevage.
Une question qui divise à présent, faut-il célébrer Napoléon ?
Et le 5 mai marquera le bicentenaire de sa mort, mais déjà le sujet crée la polémique en Corse, où est né l'ancien empereur. Les commémorations ont débuté hier soir avec plusieurs visioconférences, mais pour certains élus, ce n'est pas à la hauteur du personnage. Frédéric Michel.
En Corse, son île comme sur le continent, Napoléon divise. L'homme ne sera pas officiellement célébré, mais le bicentenaire de sa mort commémoré par l'Assemblée territoriale de Corse, un choix politique assumé par son président, le nationaliste Jean-Guy Talamoni.
La commémoration est indispensable. La célébration, on peut comprendre qu'elle soit contestée. Bien sûr qu'en tant que politique, nous sommes chargés d'une politique de mémoire, mais cette politique, nous la faisons de manière respectueuse de toutes les interprétations historiques. Nous ne voulons pas imposer un roman national. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout dans un ordre d'idées axiologiques, le bien, le mal. Non, nous travaillons sur un personnage, sur une époque. Et encore aujourd'hui, nous sommes aussi le produit de ce qu'il a fait.
Des commémorations à minima, regrette Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, qui préside un groupe d'opposition à l'Assemblée de Corse.
Ça manque d'ambition, il fallait aller un peu plus loin. La marque Napoléon, nous devrions en tirer davantage de bénéfices, y compris d'un point de vue touristique et économique. On n'a pas été assez performants, quels que soient les partis politiques, pour nous réapproprier ce personnage illustre.
Et crise sanitaire oblige même à Ajaccio, la ville natale de l'empereur. Il ne devrait pas y avoir de grands rassemblements à l'occasion de ce bicentenaire de la mort de Napoléon.
Frédéric Michel en Corse pour Europe 1. Et puis en attendant la réouverture des salles de spectacle, eh ben on peut se divertir. En ligne, on peut assister à un festival de théâtre en ligne.
Oui, le festival Parole Citoyenne qui s'adapte à la crise pour sa 4e édition. Ça se passe sur Facebook Live à l'initiative du producteur Jean-Marc Dumonté. 8 spectacles à voir pendant tout le mois d'avril et il y a du beau monde à l'affiche. Julie Gayet, Lambert Wilson ou encore Christina Reali qui jouera une adaptation de la vie de Simone Veil. À l'approche de cette performance un peu particulière, elle a confié ses impressions à Diane Chenouda.
Même si c'est cet ovni, le live streaming pour moi, c'est quand même très agréable d'être en création. On sera en live et on aura évidemment tout le track qui va avec, comme au théâtre. Ce festival, moi pour moi, je l'ai ressenti comme un début de fin de pandémie, même si la pandémie est toujours là. Mais ça nous a fait une petite ouverture, un petit espoir. Et c'est vrai que pendant que je répète là, ça me remet dans ma vie, dans ce que je fais d'habitude. J'ai l'impression que ma vie a repris un peu. C'est un très joli festival. J'ai trouvé ça très, très intelligent de vouloir le faire quand même là, cette année, de cette façon. Puis ce sont des textes contemporains qui parlent de plein de sujets de société. Et Simone Veil, ça rentre complètement dans ce cadre. Je le prends comme un challenge, surtout avec un sujet pareil.
Voilà, Christina Reali qui incarnera donc Simone Veil dans 3 semaines, le 28 avril. Pour s'inscrire, rendez-vous sur Facebook Live et c'est pas moins de 9 euros pour assister au spectacle.
C'est noté, merci. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h10.